Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio en balade. Aujourd'hui, samedi 23 août, nous sommes à Lens pour une émission en direct du café Le Monument. Nous nous sommes réunis pour parler de poésie en général et de Christian Emery en particulier. Christian Emery, un poète lié à la commune de Lens, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous accueillons autour de la table ronde la comédienne, metteur en scène d'origine sédunoise Geneviève Gull, Gilles Monron, journaliste et musicien, Francine Clavien, poète et enseignante, et Chester Sively, poète et éditeur de poésie. Francine Clavien, bonjour, bienvenue sur Pavillon Nomade. Vous êtes née et vivez en Valais, vous êtes active dans la formation d'enseignants à la HEP Valais et dans la recherche et l'enseignement de la poésie. Vous co-dirigez la rubrique Babel en ligne, les carnets de Poédil. C'est quoi plus précisément cette...
Alors c'est une revue qu'on a créée sur l'enseignement de la poésie, qui est une revue, on va dire scientifique, hein, créée par des chercheurs dans l'enseignement de la poésie. C'est une petite niche, hein, on est assez peu à s'intéresser à l'enseignement de la poésie en Europe francophone, parce que c'est une revue internationale. Et puis dans ces carnets de Poédil, on a voulu aussi ouvrir une rubrique à la poésie, parce qu'on trouvait dommage de parler de la poésie sans qu'elle y soit, sans qu'il y ait du texte. Et donc, moi, je m'occupe de cette rubrique Babel, où j'édite 6 à 7 poètes et poétesses par année sur ce site. Voilà.
J'ai vu que vous co-dirigez la rubrique. Alors, qui est votre acolyte, le co-directeur ou la co-directrice?
Alors, c'est deux amies brésiliennes, figurez-vous. Donc, c'est vraiment international, qui enseignent le français comme langue étrangère au Brésil et qui vont rechercher des poètes amérindiens, brésiliens, enfin d'origine amérindienne ou non, qui écrivent dans les dialectes ou en portugais. Voilà, donc je suis effectivement connectée au Brésil à travers cette rubrique.
De votre côté, vous écrivez de la poésie depuis longtemps. Vous avez reçu le prix des écrivains en 2004. Mm-hmm. Vous continuez d'écrire?
Je continue d'écrire. En même temps, c'est vrai que pour s'affirmer dans le paysage éditorial, c'est un travail. Et on le voit avec Christian Emery, justement, on va en parler tout à l'heure, justement, de ses publications. Il a aussi fait de l'auto-édition, mais il a été aussi soutenu par un éditeur, André Parisot de La Chaux, un très, très important éditeur roman. Et donc, moi, en tant que poète aussi, je compte sur la richesse de l'édition romande, mais aussi la collaboration. Donc, effectivement, je continue. Depuis ces années-là.
Chester Sively, vous avez également été primé, vous avez reçu le prix de poésie de l'Académie romande en 2023. Vous êtes né à Genève et installé en Valais. Vous êtes musicien, chanteur, poète. Vous avez publié à votre compte 2 recueils de poésie et édité, écoutez-moi bien, une anthologie de poésie internationale. Vous avez publié Papus en 2022 et notamment Joe Dassin a menti aux éditions des Fleurs. Mais comment ça, Joe Dassin a menti? Il ne faut pas les siffler sur la colline et il n'y a pas tout ce que nous voulons aux Champs-Élysées.
Si c'était par rapport aux Champs-Élysées, justement, et je commence en disant que Joe Dassin devait être un touriste parce qu'il n'y a plus que les touristes qui se baladent à Paris.
Ok, alors, Francine est née en Valais et domiciliée en Valais. Chester est née à Genève et s'est installée en Valais. Le parcours Geneviève Gull est plus agité. Je lis ceci à son propos sur Internet. Born in Lausanne on October 64, Geneviève Gull is originally from the Valais and lives between the Valais, Geneva, Paris and Berlin. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et pour tous ceux qui parlent anglais et qui n'ont pas compris mon interprétation, ça veut dire que Geneviève est née à Lausanne, a grandi à Sion et navigue aujourd'hui entre Genève, Paris et Berlin. Est-ce bien cela?
Oui, c'est juste. Vous voulez des détails?
Ok, donc on a des plus nomades et moins nomades. Dernier acteur de cette table ronde, c'est Gilles Monron. Il est venu en voisin parce qu'il est né à Aïe. Il est journaliste, musicien, et il a mis en musique les poèmes d'Emery gravés dans un disque, Le Sourd Parle, qui nous a donné un concert tout à l'heure, hein, après l'émission. Mais j'aimerais juste savoir, c'est un truc qui m'intrigue vraiment, Gilles, c'est de savoir, vous avez grandi sous le regard du Christ-Roi. Est-ce que c'est angoissant, plutôt rassurant, de se savoir observé en permanence par le Christ roi ?
Alors, si vous l'observez bien, il regarde plutôt vers Sierre, je crois.
Alors, je l'ai mal regardé. Alors, on vient concrètement sur la poésie d'Emery. Geneviève Gull, vous jouez, vous mettez en scène, vous dirigez une compagnie, l'Ascenseur à poisson, depuis une vingtaine d'années. Vous réalisez des films documentaires. Vous avez connu Christian Emery ?
Oui.
Et vous l'avez mis en scène ?
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord de nous faire entendre un autre de ses poèmes ?
Oui. Seul ventre creux sur la terre des morts, abîme de corps, mon propre corps, propre os vrillé et moi en abîme dedans. Moi, si seul, si perdu, si petit veilleur dans l'immensité de tempête de ce monde qui me trousse. Je ne suis pas seul, je suis perdu. Je suis l'errant, et quoi qu'il en soit, résident ordinaire, et je garde mon corps violé. Je tiens une vierge dans le ventre, toute une forêt vierge et tout l'impénétrable qui va avec. Emery, l'alternative à vivre. Je regarde le vent me voit, et voilà.
Merci, tu peux garder le micro. Comment avez-vous connu alors Christian ?
Ben, je l'ai connu, je pense que je devais avoir 17 ans, ou 15 ans même. En fait, je l'ai connu quand on faisait partie d'une troupe qui était menée par Mozart, c'est-à-dire Pascal
Reichler.
Voilà. Et Pascal écrivait des pièces. Et avec Maya, qui était là aussi d'ailleurs, qui est parmi nous. Et en fait, je crois que c'est un peu là que j'ai dû le connaître. Et puis on a toujours eu des rapports. Et puis j'ai connu sa poésie. Et puis ensuite, j'ai fait un spectacle après son décès en 99, à partir d'un cahier brut, de deux cahiers bruts d'ailleurs. J'ai fait une mise en scène avec ses poèmes, dont qui sont ceux que je dis là.
Des cahiers bruts, c'est-à-dire des cahiers qui n'ont pas été publiés ?
Non, ça n'a pas été publié, non.
Puis comment ça se fait qu'ils ont atterri chez vous ?
C'était sa compagne. C'était sa compagne de l'époque, Brigitte Torrent, qui me les a donnés. Et voilà, j'étais attirée par son écriture et puis en prenant connaissance de ses cahiers, j'ai eu envie de faire un spectacle à partir de ça, voilà. Et c'était une expérience assez incroyable, parce que c'est un matériau théâtral très intéressant. C'est-à-dire que de là est né un spectacle et vraiment un langage. C'était un peu, comme on dit, une espèce d'écriture de plateau. C'était quelque chose de... C'était pas du tout fait pour la scène, mais c'était quand même... des poèmes pour être dits et on a fait un spectacle très spécial, je dois dire, où il y avait beaucoup de silence. Je pense qu'il y avait beaucoup de silence. D'ailleurs, Christian était quelqu'un de... Je l'ai connu assez silencieux, bien qu'il pouvait être très bavard à 16 heures, mais c'était une personne particulière.
J'ai vu un spectacle il y a une quinzaine d'années à la Grange de Dorigny. C'était celui-là, avec les textes d'Emery ?
Ouais, c'était celui-là, ouais.
Alors, j'ai vu. Mais comment vous avez... Alors, comment on travaille ? On a un texte, puis vous êtes avec plusieurs comédiens. Alors, comment on fait porter la voix, tantôt par un comédien, tantôt par une comédienne ? Comment vous découpez ? Comment vous sentez ?
Bon, j'ai structuré le spectacle sur trois volets. On va dire, c'était le viol, la, ré, la révolte et l'amour. Parce que ça me paraissait être des sujets qui traversaient son œuvre. Et donc, j'ai structuré d'abord les choses comme ça. Et puis ensuite, ben, on cherche à dire une matière. Et on cherche sa théâtralité. Et ça donne. Voilà, c'est dans le travail de répétition que les choses s'élaborent, quoi. Tout est à inventer, hein. C'est surtout une chose comme ça qui n'est pas une pièce de théâtre, mais qui est un matériau brut.
Brut, mais quand on a connu quelqu'un, vous disiez tout à l'heure, il était parfois silencieux, il était parfois bavard. Est-ce que vous recherchez à reproduire un peu sa voix ou son intonation, son timbre, son ton, ou bien au contraire, vous vous détachez complètement de Christian pour aller vers les textes?
Bah, il est dans ses textes, alors non, on va pas coller au personnage, il n'y a pas de personnage. C'est plutôt une matière qu'on essaye de. À laquelle on essaye de donner une forme et les choses naissent du travail de répétition, elles naissent par la recherche, par l'expérimentation. Je pense que ces textes demandent beaucoup d'espace. On ne peut pas lire rapidement ces textes. C'est pour ça aussi, je pense que ce spectacle était très silencieux, parce que c'est des textes qui demandent de l'espace. C'est-à-dire, c'est ce qu'on apprend quand on travaille un texte. On cherche, comme des chercheurs aveugles, on y va à l'aveugle parce qu'il n'y a pas de recette. Évidemment, monter Shakespeare ou monter des pièces de théâtre, c'est bien qu'on peut innover énormément dans la mise en scène, mais un matériau comme ça, au théâtre, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, j'ai voulu le mettre un peu en situation. Je n'ai pas voulu faire des lectures, et même si j'ai fait d'autre part des lectures, mais je voulais le mettre en scène, lui donner une forme théâtrale. Et c'était passionnant parce que ça fonctionnait très très bien. C'est une matière théâtrale qui fonctionne très très bien.
Et vous vous souvenez de l'écho, les comédiens, qu'est-ce qu'ils en avaient retiré?
Bon, on peut dire quand même que c'est une écriture assez insoutenable. On ne va pas tourner autour du pot et nous donner l'impression qu'on est en train de lire des choses légères, etc. C'est une écriture d'une densité folle. Et je sais que quand il a écrit, il a vraiment poli les mots. Il a beaucoup, même presque ressassé son écriture. D'ailleurs, je sais qu'il voulait arriver à ne plus écrire. C'était un peu son but, parce que son écriture, c'était une souffrance. Je veux dire, c'est pas parce qu'il dit. S'il dit la souffrance, c'est qu'il y a de la souffrance. Et cette souffrance, je pense que c'est un être à qui on a coupé les ailes. C'est un être qui a eu besoin, qui, par l'écriture, par la poésie, a voulu se débarrasser de quelque chose. Et notamment, je pense que. Il a subi, je pense que c'est quelqu'un qui est lui ou proche de lui, parce que il n'est pas là pour le dire. C'est quelqu'un qui a subi des violences, le viol, il est question de viol. Et on sait que je m'excuse, mais je me permets de le dire parce que j'apprends rien à personne. Il était au collège de Saint-Maurice et c'est quand même un lieu qui est réputé depuis le début du siècle dernier pour faire des choses vraiment un peu abominables sur des pauvres jeunes et belles personnes.
C'est possible. Comment lire, justement Gilles, toi, tu n'as pas connu Christian Imbri, vous n'êtes pas de la même génération. Alors, quand tu as lu ces textes la première fois, est-ce qu'il y a eu cette place au silence? Comment tu les as lus? Comment tu les as découverts?
Je les ai découverts directement avec les ouvrages de Parisot. Mmh. Et je pense que ça a eu son importance parce que c'était un choc aussi visuel et l'impression est très impressionnante. Pardon pour la répétition, mais est très forte. Et puis, c'était une lecture silencieuse. Après, moi, je suis musicien, donc je suis contre le silence. J'ai brisé une sorte de silence en le mettant en musique, j'ai l'impression.
Mais tu les lis à voix basse ou à voix haute?
Les deux. En premier, à voix basse, c'est une lecture intérieure. Et après, pour le travail, je les lisais à voix haute. Et après, je les ai beaucoup répétés, beaucoup chantés.
Question que je peux poser à Chester, puisqu'il écrit de la poésie, mais il écrit des chansons aussi. Alors, tes textes, ils sont pour l'œil ou ils sont pour l'oreille ?
Je pense qu'ils sont principalement pour l'oreille. Je crois vraiment en l'oralité de la poésie et en la puissance que les mots prennent lorsqu'ils sont dits. Et on voit que si on fait lire le même texte à deux personnes, on pourra avoir deux impressions totalement différentes, alors que les mots restent les mêmes, mais c'est là que l'oralité prend toute son importance.
Alors, voix intérieure, hein, lire doucement, lire fort. Vous enseignez aussi la poésie, vous enseignez la didactique de la poésie. Alors, est-ce que vous enseignez à rechercher la musique, le rythme ?
Oui, c'est fondamental. Et je pense que passer par la mise en voix d'un poème, c'est effectivement fondamental pour toute personne qui s'approprie un poème, alors que ce soit des étudiants ou nous-mêmes. Prenez un poème, faites l'exercice, un poème qui vous paraît un peu obscur, et puis lisez-le, trouvez votre propre manière de le lire, mais c'est clair que votre propre manière va répondre à la manière propre du poème d'être, hein, parce que on a vu, et Geneviève l'a répété, les poèmes d'Emery jouent sur la répétition, par exemple, mais pas seulement. Donc rythmiquement, le poème donne un rythme. Et c'est peut-être cette voix intérieure dont vous parlez, Gabriel. Mais ensuite, celui qui le dit, qui le met en voix, va chercher sa propre énonciation. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un poème ne sera jamais dit de la même manière par deux personnes.
Alors, on va faire l'exercice. Chester, tu es prêt ?
Oui.
Alors, tu vas lire. Tiens, lis le premier, là, le sourd parle.
Le sourd parle. Je me tiens droit dans mon corps. Mon corps crève, mais je me tiens droit dans mon corps. Et je suis droit dans ma tête. Droit dans ma tête qui te maudit. Droit contre toi dans ma tête qui n'est plus la mienne. Quelqu'un ne contraint plus ses fantômes. On ne trouve plus son corps. On a beau fouiller dans le noir, on ne trouve plus son corps. On s'assied tout au fond de sa conscience. On s'assied, on est résolu, mais on ne trouve plus son corps.
Je me tiens droit dans mon corps. Mon corps crève, mais je me tiens droit dans mon corps. Quelqu'un ne comprend plus ses fantômes.
Alors vous êtes sur Pavillon Nomade, on vient de tenter une expérience, puisque c'est le même poème qui a été lu une première fois par Chester et ensuite mis en musique par Gilles Moron. Gilles Moron, par exemple, pour ce morceau-là particulièrement. Hein. Alors comment se crée cette musicalité pour arriver à poser des instruments, décider d'une intro, une extro? Comment tu travailles?
Sur ce morceau-là en particulier, oui. Alors ce morceau-là en particulier, c'est une idée de... C'est avant tout une proposition musicale, comme tout en fait l'album. Et ça, c'est une idée d'Yann, le contrebassiste, Yann Emery. Et il s'est avéré, sur tout ce qu'on a fait, que l'écriture d'Emery se prêtait particulièrement bien à la mise en musique. Donc ça a fonctionné du début... Comme du papier musique. J'ai pas eu à forcer la mise en musique. Elle est venue assez naturellement. Et après, c'est en jouant avec les musiciens, en jouant ensemble, que les choses se sont mises en place et se sont imposées un peu d'elles-mêmes.
Et puis, alors, ce ton sur ce poème correspondrait pas à un autre. On peut pas dire ouais, on prend des poèmes, on les échange, puis.
Je pense que ça, c'est plutôt une question de rythme. Quand on avait une musique, parce qu'on est parti de la musique, les textes existant déjà, et on avait des propositions musicales. Moi, j'avais fait des sélections de poèmes qui me parlaient. Je sais plus quels étaient mes critères. Je savais aussi que les textes les plus durs de Christian devaient être mis en musique différemment. On a fait des improvisations autour de ces textes-là, le morceau Urgence, enfin le poème Urgence particulièrement. Et celui-là, ça a imposé, je ne sais plus, on avait la musique et ça a fonctionné tout simplement. Et après, on n'a pas cherché à faire une illustration des poèmes d'Emery. On est musicien, on avait des envies musicales, des choses sont nées, ça a fonctionné. Et voilà.
Est-ce que d'entrée, il a été convenu de faire un spectacle, un disque, uniquement avec des textes d'Emery, ou à un certain moment, vous étiez, on pourrait faire une espèce d'anthologie de la poésie, puis mettre Emery en face à face avec d'autres?
Absolument pas, non. Il n'y avait pas de calcul. Il y avait, dans mon parcours de musicien, je sortais d'une période où avec mon groupe, qui s'appelait Kabak, où on avait aussi des textes en français. On sortait de 2-3 ans assez intenses, on avait pas mal joué, sorti un disque, on était fatigué. Moi, j'étais un peu aussi dans une période où j'écrivais les textes aussi, j'étais un peu à sec, tout simplement. Je me suis dit, c'est le moment d'essayer quelque chose, et je me suis souvenu d'Emery, pour différentes raisons, et voilà, ça fonctionnait. Et aujourd'hui, on est là, et c'est une très belle aventure, en tout cas. Mais au début, non, il n'y avait pas de pressenti, de se dire on va mettre en avant ou faire un hommage à Emery. C'était simplement vouloir travailler avec ces textes parce qu'on les aimait.
Mais une aventure qui ne se termine pas aujourd'hui. Vous avez d'autres dates, d'autres concerts?
Oui, on commence à avoir des dates à Genève. C'est un projet qu'on mène à côté de nos vies professionnelles. Enfin, moi, deux des musiciens sont professionnels retraités, donc ils ont plus de temps que moi. Moi, je dois travailler quand même à côté. Encore, donc c'est au fur et à mesure de l'énergie et des rencontres qu'on va continuer à se produire, oui. Mais c'est un peu le point d'orgue aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression, je sais pas.
Le point d'orgue, donc le concert qu'on entendra tout à l'heure après cette émission.
L'après-midi.
Merci. Francine Clavien, alors on vous présente comme poétesse ou poète?
Je préfère poète parce que le suffixe S, princesse, comtesse, ça ne me plaît pas.
Alors vous êtes née dans les années 60, un peu à la fin des années 60, mais vous êtes de la même génération que Christian. Est-ce que la poésie d'Emery vous parle, que vous touche?
Oui, elle me touche parce que je la sens faite, on l'a dit à plusieurs reprises, d'expériences vraiment fulgurantes, contestataire, et c'est parce que c'est une poésie où on voit que l'écriture et la vie se rejoignent complètement. C'est ce qu'a dit Geneviève tout à l'heure. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de vie chez lui. Donc ce n'est pas la vie d'un côté, l'écriture de l'autre, mais ça se rejoint complètement. Et c'est pas un mot vain que de dire que ça se rejoint. C'est pas. C'est vraiment dans la forme, comme disait Geneviève, quand il dit souffrance, c'est souffrance. Et il va mettre en mots et en rythme cette souffrance. Donc c'est effectivement une poésie qui touche. On a entendu tout à l'heure des extraits assez audacieux, hein, qui touchent au blasphème même. Une écriture voilà, exultée, donc elle peut effectivement, dans un premier temps, intriguer, peut-être certains rebuter. Moi, elle m'intrigue plutôt. Bien sûr que je l'affilie à Antonin Artaud, à des poètes de cette trempe-là. Antonin Artaud, dont un spectacle magnifique avait été d'ailleurs monté dans le parc du quartier culturel de Malévaux il y a 10 ans et que j'ai vu. Et donc, effectivement... Par un autre voisin.
René-Claude Emery, celui qui avait mis en scène Antonin Artaud pour en finir avec le jugement du Dieu.
C'est ça, exactement. Donc, ce sont des poètes qui passent par une brutalité de la langue pour dire la brutalité qu'ils ressentent, ou une forme de brutalité du monde. Et Emery, donc, ce qui me touche, c'est qu'il met en scène, en jeu, tout ça. D'ailleurs, c'est un jeu qui est très présent. Hein. On voit l'énonciation, il dit « je », donc « j-e », hein, « je ». C'est une affirmation, une exultation, mais avec des changements brutaux d'énonciation. D'ailleurs, je, il, tu, mais le je est au cœur de cette poésie. C'est une poésie sans concession.
Oui, alors vous enseignez la poésie, vous enseignez aussi la didactique, donc des jeunes futurs à l'HEP, donc des enseignants, des futures enseignantes. Quel texte choisir ou comment préparer ces gens à apprécier ou à découvrir ou à reconnaître la poésie d'un garçon comme Emery?
Alors ce serait vraiment un très bel exercice parce qu'il faut dire tout de suite que la poésie contemporaine est très peu présente à l'école secondaire, malheureusement. Elle est beaucoup moins présente que les corpus classiques, les corpus aussi de poètes du XXe siècle. Moderne, on va dire. Mais la poésie contemporaine entre très difficilement en secondaire. Je pense que ce n'est pas par manque d'intérêt des enseignants pour la poésie contemporaine, mais peut-être se sentent-ils un peu, peut-être pas assez légitimes pour l'enseigner, à tort, hein, parce que, en fait, c'est une poésie qui doit s'interpréter, se construire en lecture. Et parfois avec l'invitation de l'auteur dans la classe, du poète dans la classe. Donc, je verrai effectivement l'introduction de cette poésie d'Emery en classe, soit par la mise en voix, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à plusieurs reprises. Donc vraiment, je le disais, la mise en voix qui est fondamentale pour s'approprier un poème et s'approprier soi-même aussi comme je énonçant la poésie qu'il entend résonner dans sa cage thoracique. Hein. C'est vraiment là qu'a lieu le poème. Et d'autre part, je le verrai aussi dans des ateliers d'écriture, par exemple, à essayer avec les textes d'Emery par... quelques formes d'imitation, mais il ne s'agit pas d'imiter Emery, mais il s'agit de prendre des amorces d'écriture, des impulsions comme ça, qui peuvent nous donner une accroche à notre propre écriture, nous inspirer. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait faire des catégories de poètes valaisans contemporains? J'ai essayé d'imaginer, par exemple, les poètes maudits, comme Vital Binder, qui s'est suicidé, Emery, qui est mort très jeune, Pasquali, qui s'est suicidé, donc ces poètes maudits. Contrairement aux poètes gentils comme Milite ou Jacques Tourné, Milite qui se décrit comme la poésie des talus, oui, c'est les sauterelles, ou alors les poètes critiques comme Chapa ou Clavien, plus politique. Est-ce qu'on pourrait faire des classements?
Alors je trouve que les classements et les catégories, elles sont intéressantes dans la mesure où elles disent quelque chose de la forme d'écriture de ces poètes. Si elles n'en disent rien... Voilà, la catégorie est un peu vide. Alors, pour reprendre vos catégories qui sont intéressantes, Gabriel,
merci.
Comme ça, on parlera de poésie valaisanne. Effectivement, on pourrait classer sous poète maudit Vital Binder, Emery Pasquali, mais aussi Léonard Valette, Voilà, oui. Dardon, voilà. Vous vous souvenez que le premier à avoir parlé de poète maudit, c'est Verlaine. Il désignait Rimbaud, Mallarmé, Tristan Corbière, avec cette quête d'absolu, hein, cette exigence des formes et par égard subversif, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour ces poètes-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de subversif ou de transgressif par rapport à un canon littéraire. Je pense à Pasquali, à une attente de la réception. Comment est-ce qu'on les a reçus? Et je sais que Pasquali, pour l'avoir côtoyé à l'Université de Genève, avait été très déçu ces dernières années par la réception de son œuvre. Il ne se sentait pas compris dans son écriture, hein, quelqu'un de très talentueux pourtant. Et je dirais que c'est... Alors, hormis Emery, les trois autres ont choisi le tombeau comme forme, et comme forme littéraire. Et puis, peut-être pour Emery, on pourrait dire qu'il s'est préparé à la mort. Donc, dans ce sens-là, votre catégorie, votre première, elle tient tout à fait, Gabriel.
Vous m'en voyez ravi.
Tant mieux. Donc, je me demandais aussi, quel accueil a-t-on réservé aux poètes en Valais à la fin des années 70? Et puisque vous parliez tout à l'heure de 1979, effectivement, on peut se demander quelle place était réservée aux poètes. Certainement pas une très bonne place. Peu de maisons d'édition qui s'intéressaient à la poésie. Une vie culturelle qui s'intéressait peu à la poésie ou aux arts. Hein. Il y avait d'autres arts qui étaient priorisés. Et comme vous l'aviez dit, vous l'avez brossé là, dans votre portrait de la fin des années 70, une poésie contestataire qui commençait à émerger en Suisse romande, Yves Velan, mais on pense aussi au Valaisan Jean-Marc Lovet, et qui n'était pas vraiment poète, plutôt prosateur, mais enfin, voilà, c'est l'émergence de cette poésie ou ces poètes maudits dans ce contexte-là.
Je vais parler tout à l'heure du Collège de Saint-Maurice. Il faut savoir qu'il y avait eu un happening à Saint-Maurice qui a marqué durablement les esprits, puisque des jeunes ont escaladé la falaise derrière le collège pour écrire « Vive Chapa !» Et cet énorme graffiti est resté des dizaines d'années. Je peux vous dire qu'un des jeunes est aujourd'hui retraité, juge à la retraite. Voilà.
Quant à vos autres catégories, si je peux juste en parler rapidement, les poètes, vous dites gentils. Effectivement, cette catégorie, elle ne va pas nous apporter grand-chose à la caractérisation des poèmes d'un Milite ou d'un Tornet. Mais j'y vois chez l'un et l'autre un lyrisme, l'expression d'un affect qui est transfiguré par la métaphore. Vous parliez tout à l'heure. Et puis enfin, Chapa, effectivement, écrit sur les falaises de Saint-Maurice ou Clavien. À nouveau, pas grand-chose sur la forme de dire qu'ils sont poètes critiques, mais quand même, effectivement, c'est des poètes qui travaillent la figure du passé avec une critique du modernisme, de la modernité, et qui sont dans un rôle de veilleur. C'est le poète, la figure du veilleur, du vigile, du veilleur, qui doit prendre garde aux dérives et effectivement pouvoir critiquer, être critique. C'est aussi une célébration du don et de la terre valaisanne.
Vous êtes parent avec Germain Clavien ?
Oui, c'est un cousin. C'était un cousin.
Un cousin, pas un oncle ?
Non, c'est un cousin, mais je sais qu'il venait chez nous aussi, dans ma famille, et il a porté ses livres, parce qu'en fait, il a eu l'ambition de créer une somme avec plusieurs tomes qui faisaient partie de son œuvre littéraire. Donc c'était aussi une œuvre au long cours.
Chester, vous connaissez Germain Clavien ?
Non.
Non, parce que je l'accuse presque de népotisme, parce que pendant 22 ans, Germain Clavien était le président de la Société des écrivains valaisans, et c'est lui qui présidait la société lorsqu'on vous a remis le prix de poésie. Donc j'ai vérifié, ce n'est pas votre oncle, donc ce n'est pas du népotisme. On continue avec Chester. Vous êtes poète, éditeur, musicien, vous êtes né au XXe siècle. Vous vous déclarez poète, j'ai vu, je suis poète. Qu'est-ce que ce mot signifie aujourd'hui, en 2025
Je pense que chacune aura probablement une définition différente. Ma volonté de l'affirmer publiquement, c'est pour redonner ce mot au public, parce que j'ai fait beaucoup de poésie dans la rue, où je prenais ma machine à écrire, puis j'allais écrire des poèmes aux passants et aux passantes. Et on me disait, mais c'est fantastique, il n'y a plus de poètes. Et en fait, en étant aussi membre de la Société des écrivains valaisans, Et dans une section jeune où il y a beaucoup qui écrivent, je dis mais si, il y en a partout. Et donc c'est une volonté de remettre ce mot au goût du jour, puis de dire bah, finalement pourquoi pas être poète en plus d'autres choses.
Quelle est la sensibilité justement à la poésie parmi vos contemporains?
Bah, j'ai l'impression qu'il y a un certain regain d'intérêt pour la poésie, en tout cas pour certaines formes de poésie, notamment à travers des formats courts qui rencontrent un certain succès sur les réseaux sociaux. Et on peut être critique vis-à-vis de ça, dire que c'est peut-être pas de la grande poésie, c'est peut-être pas des vers dont on va se souvenir dans 50 ans. Mais j'aime être positif et dire que c'est une porte d'entrée facilitée pour ensuite se plonger peut-être dans d'autres choses un peu plus différentes et aborder la poésie de manière plus moderne.
Et vous faites aussi de la chanson. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre une chanson et une poésie ?
En tout cas, pour moi, c'est un processus d'écriture assez différent, puisque quand j'écris une chanson, je vais réfléchir à la musicalité dans le sens de pouvoir la mettre en musique, vraiment, une recherche où la voix en tant qu'instrument, puis les mots vont être complémentaires avec le reste des instruments, alors que quand j'écris pour la poésie, je recherche la musicalité des mots, mais pour eux-mêmes, qui puissent être se tenir seuls sans avoir besoin de l'appui de la musique ou autre chose. Donc pour moi, c'est deux processus assez différents.
Alors on a fait l'exercice tout à l'heure d'écouter un poème en musique, un poème sans musique, et là on va écouter un peu de musique sans poème. C'est une œuvre de Chester.
Ai-je eu lieu? N'ai-je pas lieu? J'ai le cœur si gros, j'ai le cœur trop gros et le corps si petit. Ne pas marcher au hasard, marcher dans la nuit. Parce que moi, mon corps commence à moi et en silence, commence en solitude et abîme, mais aussi pur et sûr qu'un linceul, je me bats pour que rien ne s'écroule de moi, pour que mon corps ne s'enfouisse pas, ne cesse pas. Je me bats fibre à fibre contre le désespoir, me bat contre l'horreur qui monte et va pour me prendre, s'alasse, et me prendre par derrière. Et ça, je ne l'admets pas. Je ne peux plus que me désolidariser de cette race des hommes parce que moi, je suis un poisson, un oiseau et un arbre. Et la terre très lourde et qui toujours recueille et digère à la fin le cadavre de l'homme.
Merci Geneviève. On a vraiment l'impression, on le comprend en t'entendant lire, qu'il y a cette volonté d'exprimer quelque chose d'indicible, qui se dit quand même par des mots, mais une espèce d'indicible beauté. Je sais plus, comment vous sentez ça de...
Oui, c'est vrai qu'il y a de la beauté. Il y a beaucoup de beauté dans sa poésie. Et puis, en fait, je me faisais la réflexion aussi que il y a pas mal de fragments qui sont un peu comme des haïkus. C'est-à-dire c'est quelque chose de très épuré et dénudé. Et je pense qu'il a voulu, en effet, il a cherché les mots pour dire ce qu'il devait dire. Alors, tout le monde le fait, bien sûr, mais dans la poésie, il y a quelque chose d'encore plus... La poésie, c'est quand même un dénuement, hein, souvent, je trouve. C'est un peu quelque chose, un peu à l'os, comme ça, hein, qui est dénudé. Bon, il y a peut-être il y a différents types de poésie, mais il me semble que... Et je trouve que ça se prête très bien à la musique. Alors, en écoutant ta musique tout à l'heure, je disais que cette parole a besoin d'espace. Et je trouve que la musique semble... Je me réjouis d'écouter le concert tout à l'heure parce que j'ai l'impression que la musique lui donne cet espace. Et puis, c'est pas un vide qui nous laisse un peu perplexes. Et je trouve que par rapport à la dureté quand même de cette poésie, à son aspect un peu insoutenable, j'ai l'impression que la musique permet de lui donner un peu l'espace pour recevoir. D'ailleurs, je pense qu'Emery, c'était quelqu'un un peu de rock. Je veux dire, c'est une poésie un peu punk, quelque part. Hein. Il y a quelque chose de punk. C'est pas enjolivé, quoi.
Oui, justement, c'était une idée que je voulais développer. Quand j'ai fait cette introduction sur les années 79, vous dites que c'est une année punk. En 1979, il y a Ramones qui sort ses disques. Il y a la grande époque des Clash, donc du punk aussi. Puis on peut penser qu'il y a du punk dans la littérature.
Ah ben oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Hein. Le punk traverse toute forme artistique. Et c'est aussi... C'est une langue. Moi qui connais... Parce que quand même, je connais très bien toute son écriture. J'ai beaucoup brassé cette écriture, hein, en faisant un spectacle et puis en lisant tout. J'ai tout retranscrit, ces cahiers bruts, qui sont des documents épais comme ça... Qui étaient ces documents ces cahiers d'écriture, quoi, où il redit, où on voit l'écriture se développer comme ça. Et c'est une écriture, enfin, comment dire ça, c'est une langue, c'est un esprit, c'est une terre, c'est un paysage, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est-à-dire les mots chez lui prennent une autre saveur. Une écriture, pour moi, c'est ça qui est la poésie. Là, tu posais la question, vous posiez la question, qu'est-ce que la poésie ? Pour moi, c'est une langue, c'est les mots qui prennent une autre saveur. Alors ensuite, on peut les interpréter de plusieurs manières, les dire de plusieurs manières, et chaque personne qui les dira autrement. Mais à la base, là, comme ça, sous le papier, déjà, c'est... C'est pour moi une langue, oui.
On a l'impression, justement, il y a une souffrance, là, on a compris, indicible, mais qui se dit, une espèce de corruption qui apparaît par la subversion, bien, le blasphème, rendre le blasphème, parce qu'on aurait été blasphémé soi-même, faire ressortir ce qui est caché. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression du retournement de la chaussette qu'on retourne ou la bestiole qu'on évide, les viscères. C'est très organique, il y a beaucoup de viscères, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de sperme, il y a beaucoup de... Tout ce qui devait rester à l'intérieur sort. Hein.
Il est proche du corps.
Oui. Et il est vraiment dans le corps. Vous avez aussi fait un spectacle avec Sarah Ken. Est-ce que vous voyez une poétesse anglaise?
Oui, dramaturge londonienne anglaise, oui.
Vous êtes attiré par ce type de personnage aussi, par ce type d'écriture.
Oui, j'ai un peu tendance à être attiré par des écritures un peu... Oui, je pense que j'ai besoin moi aussi de... Si j'utilise ces textes-là, si je suis attirée par ces textes, c'est que j'ai besoin moi aussi d'exprimer à travers eux quelque chose, certainement. Et j'aime beaucoup Jean Genet, j'aime beaucoup... Il y a beaucoup d'autres... Sans doute que je suis attirée par des auteurs un peu violents. Oui.
Ça vous calme?
Je sais pas, ça. J'ai eu besoin, peut-être que je vais me diversifier un peu, mais je trouve que c'est, pour dire Sarah Kane par exemple, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui. Je trouve qu'on vit dans un monde aussi. Je trouve que ça fait écho à ce monde tellement. Je pensais à ça, je me disais, on se sent perdu dans ce monde. Et pour moi, ces auteurs me rassurent quelque part, dans le sens où.
Oui,
dans le sens où c'est nécessaire d'exprimer ça pour essayer de pas être totalement perdu, justement.
Oui, donc justement, Francine, c'est une question que je peux poser. C'est est-ce que c'est daté? Parce qu'on peut dire, ah, mais c'est une écriture d'un auteur valaisan des années 80, et en même temps, on le relie à Genet, on le relie à Antonin Artaud, on le relie à d'autres poètes qui ont vécu à d'autres moments, et puis je me dis, ça parle à notre monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce que cette poésie, elle est datée? Ou est-ce qu'elle est contemporaine? Elle est 45 ans plus tard, elle est toujours d'actualité.
Alors on voit, je crois qu'on l'a bien entendu dans les mises en voix et les psalmodies qui ont été faites ce soir, qu'elle est tout à fait contemporaine. Et donc c'est vrai que c'est quand même prodigieux que 45 ans après, cette poésie soit toujours aussi contemporaine. Vous savez, alors on parle effectivement de grandes singularités. On se dit, est-ce qu'un nouvel écrivain... nous indique, est un indicateur que des choses vont bouger, mais on peut aussi dire que c'est parce que les choses bougent que survient un nouvel écrivain. Il a les deux revers en fait de la création. Et avec Emery, on sent qu'effectivement des choses ont bougé de ce contexte-là, mais qu'elles continuent visiblement dans ce sillage de la fin des années 70, des années 80-90, à nous parler. À travers d'autres prismes et d'autres thématiques, mais elle touche les mêmes angoisses, visiblement, et les mêmes terreurs. Hein. Je cite rapidement un vers, trois vers, le petit haïku de Christian Emery. Je dépiaute la terreur, je recule aussi, vivre, je viens.
Je viens vivre. Gilles, tu nous as expliqué que tu as découvert ces textes et que tu as été frappé d'abord par leur mise en forme.
Aussi, oui.
Aussi, parce que... Et là, c'est un autre trait qu'on pourrait traiter, en parler, c'est qu'il a voulu mettre en forme sa poésie dans des documents qui ont vraiment de la gueule, qui sont impressionnants, qui sont... C'est pas juste des poèmes à lire griffonnés, donc il les a mis en image, on pourrait dire. C'est vraiment un travail graphique qui est énorme. Ton père avait aussi travaillé sur des textes. Il avait aussi...
Oui, mon père Pierre-Alain Moron, qui a travaillé sur des mises en image, ou je ne sais pas comment appeler ça. Il a fait des livres d'artistes, mais aussi des tableaux. Et il a aussi fait quelque chose que je trouvais assez, très intéressant, c'est qu'il a dépiauté l'écriture pour l'écrire en phonétique. Et du coup, l'oralité est obligatoire. Et voilà.
Mais il a trouvé une couleur. Il a trouvé une forme graphique, une couleur sans les mots, finalement, puisque c'est un artiste d'art visuel.
Oui, mais alors il a tout réimprimait ou réécrivait à la main le poème sur lequel il travaillait. Et d'ailleurs, je crois que tous les livres qu'il a fait sur Emery sont déposés à la médiathèque pour ceux qui veulent s'y intéresser. C'est assez coloré, à mon souvenir, mais c'est assez vaste. Je crois qu'il a travaillé sur tous ses textes, sauf ceux qui sont issus du cahier secret.
Oui, on découvre aujourd'hui des secrets, Geneviève, je te remercie. Et Chester est aussi éditeur. Donc là, on voit une poésie à écouter, une poésie à regarder. Et quand on édite des textes, quelle attention on apporte au miroir de page, au graphisme, à la succession des textes?
Je pense que souvent, on ne peut pas faire de généralité, mais souvent, c'est très important. On parlait de respiration tout à l'heure dans l'élocution des textes, du théâtre, on a parlé de la musique qui donne l'espace. La mise en page, c'est aussi très important de laisser les textes respirer sur la page, de laisser aussi l'espace pour les lecteurs, les lectrices de s'approprier les textes. J'ai quelques publications que j'ai supervisées où justement on a fait des jeux sur la mise en page, sur comment les textes sont placés, sur le format en général des livres, parfois avec des illustrations aussi. Donc ça apporte beaucoup, et je pense qu'un texte, selon sa mise en page, ne va pas être reçu de la même manière par la personne qui le lit. S'il est dans rien que le fait de l'avoir dans un livre ou sur une page seule, ça va modifier beaucoup la réception.
On parlait avant de manuscrits. Hein. Geneviève a dit, elle a trouvé des cahiers. C'est des cahiers manuscrits où la main fait le geste. Hein.
Mais je pense que c'est les cahiers avec lesquels il écrivait ses poèmes. C'est-à-dire qu'il écrivait à la main, visiblement. Il n'écrivait pas à la machine à écrire. À l'époque, il n'y avait pas trop d'ordinateur encore, sauf erreur. Enfin, je sais pas. Il réécrivait beaucoup ses poèmes pour les polir, quoi. Et c'était ses cahiers d'écriture, quoi. Et comme je disais, c'était un besoin qu'il avait, parce que il le disait à la fin de sa vie. Il disait je voudrais ne plus écrire, ne plus avoir ce besoin. Et voilà, peut-être que s'il avait vécu autre chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait écrit, à vrai dire. Bien que c'était un être un peu par définition révolté aussi, hein, il était révolté contre beaucoup de choses de ce monde.
Si je peux revenir sur les mises en page et les impressions qu'a fait Parizeau, peut-être que Francine Clavien pourra nous expliquer qui est Parizeau. Mais moi, ce qui m'a impressionné, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est des mises en forme qui sont physiques. C'est pas tous, mais la plupart qu'il a publié. Il y a même un poème affiche, donc on doit se mettre debout, on doit le regarder. On pourrait le mettre dans la rue, donc il y a aussi cette envie de la mettre dans la rue. Et les gros ouvrages, les textes principaux que sont La vie en vin, Le texte du sang et Urgence, ce sont des ouvrages importants qui sont de plus en plus gros, et que quand on lit, on ne peut pas être assis dans le canapé, quoi. On doit être debout à table, et je trouve que Fernand-André Parizeau a fait un travail absolument exceptionnel, épuré aussi, parce que c'est des papiers jaunes avec du texte noir, une police très franche, à part pour Vivre je viens, qui est un cas particulier, qui est beaucoup plus sensible, plus petit, avec un papier brun et rose.
Avant de venir sur Parizeau, c'est vrai que je pensais à mon cousin Vital Binder. Alors il avait ses carnets d'écriture, et puis il avait aussi un carnet dans lequel il y avait les adresses de toutes les personnes à qui il envoyait la publicité pour son livre. Puis moi je lui dis, mais tu sais, aujourd'hui on peut imprimer des étiquettes, puis tu colles les étiquettes. Il m'a dit non, j'écris les adresses sur les enveloppes parce que je mets de l'intention à chaque fois que j'écris une adresse. Puis j'ai le temps d'écrire. L'hiver, j'écris les adresses. Voilà. Donc il recopiait ses adresses à la main. Et là, chez Christian, nous avons l'impression qu'il va passer du manuscrit au manifeste. Comme ces manifestes qu'on collait dans la rue, hein, on pourrait les afficher, c'est quasiment des affiches. Mais là, nous avions parlé de Parizeau éditeur. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur cet éditeur ?
Oui, tout à fait. C'est un éditeur qui a joué un rôle important en Suisse romande. Il a eu 30 ans d'activité, publié une soixantaine d'ouvrages. En fait, c'est un poète qui est monté à Paris, comme on dit, hein, dans les années 60. Et il a d'abord tenté une écriture poétique en Suisse romande. Il est ensuite monté à Paris parce qu'il n'était pas content des éditions suisse romande qui publiaient de la poésie et des mises en page, justement, des mises en texte de l'édition graphique de ses poèmes. Et donc, il a décidé lui-même de faire ce travail au retour de Paris, alors qu'il avait gagné un petit peu de notoriété déjà aussi comme poète. Il a décidé d'ouvrir une maison d'édition et de faire tout le travail de graphisme et d'édition avec sa maison à La Chaux. Donc c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle, effectivement, qui avait une grande attention. On le voit, hein, c'est dans, donc Gilles parlait effectivement de ces ouvrages édités par Parizeau qu'on peut voir à la médiathèque, consulter à la médiathèque de Sion. Mais on voit le soin graphique donné à ces ouvrages. Et oui, ça nous donne une idée aussi, comme vous disiez, de manifeste, Gabriel, d'affiches, de manifeste. Oui, il y a une intention comme ça qui est derrière certaines éditions.
Et Fernand-André Parizeau, normalement, quand il imprimait un auteur, il l'imprimait une fois. Et là, il a, je crois que c'est cinq recueils. Enfin, à peu près cinq recueils où il a édité Christian.
Ah, OK. Pas un exemplaire, mais il choisissait.
Non, non, okay. Il a imprimé cinq poèmes.
Il connaissait aussi le travail de typographe, il le faisait aussi lui-même. Et donc, les typographes actuels, hein, il y en a peu encore, enfin, qui restent, hein, parce que la typographie, bien sûr, est numérisée. Mais les typographes qui travaillent encore avec les pièces de plomb sont... Ces typographes qui travaillent donc avec les pièces de plomb reconnaissent Parizeau comme la figure tutélaire, comme typographe.
Terminé là-dessus, il y avait certains poètes comme Apollinaire, Jean Cocteau, qui étaient particulièrement attentifs à la graphie. Ils écrivent à la main, le poème est dessiné, on pourrait dire. Aujourd'hui, la plupart écrivent à la machine, donc on n'a plus accès à l'ordinateur, donc on n'a plus accès à toutes les versions. Et puis, est-ce que le fait de passer du manuscrit au tapuscrit, ça modifierait la manière d'écrire ?
Alors, visiblement, l'outil modifie toujours la manière d'écrire. Et pour répondre à votre question, Gabriel, on peut prendre l'exemple actuel de l'insta-poésie, c'est-à-dire la poésie sur Instagram. Et donc, il y a des poètes qui se disent insta-poètes. Et donc, en fait, l'outil Instagram va demander une écriture rapide, relativement brève, parce que les gens lisent rapidement sur Instagram. Donc là, je prends un exemple pour montrer, effectivement, comment l'outil modifie l'écriture et la forme d'un poème, effectivement.
Et l'outil radio modifie aussi le type de discussion, car nous arrivons déjà au terme de cette émission de Pavillon Nomade. Alors, merci à nos invités, Geneviève Gull, Francine Clavien, Gilles Moron et Chester Tivelli. Merci à l'équipe de Pavillon Nomade, Julien Moron à la technique et Dominique Stalder à la réalisation. Merci aux organisateurs cet après-midi pour Emery, la Fondation Opal, Gauthier Chiarini, Catherine Anti et Gilles Moron, au restaurant Le Monument. Vous pouvez écouter cette émission et les suivantes sur pavillonnomade.ch en un mot. On se retrouve jeudi prochain à 15h30 en direct du quartier culturel de Malévaux pour l'émission hebdomadaire qui recevra Manuela Mori et pour une nouvelle émission hors les murs le vendredi 5 septembre à 20h au Cave du Manoir avec Luca Fox de Motorhead en exclusivité suisse. Tu connais Motorhead ?
C'est le batteur
de Motorhead. C'est pas ta tasse de thé, Motorhead. Sinon, tu aurais su que c'était le batteur. Alors, Gilles Moron, merci. Je te laisse te préparer avec ton groupe pour Emery, le sourd qui parle. Nous allons nous quitter avec une chanson d'un artiste poète qui est arrivé aussi dans les années 78, 79, 80, mais comme une comète. Ce fut en Valais une révolution, une explosion. Et c'est sans doute ce qu'écoutait Emery dans sa chambre sur son cassettophone. Nous étions à Lens pour Pavillon Nomade et là, tout de suite, Hubert, Félix, Thiéphaine, le chant du fou. Merci de votre présence, merci de votre écoute.
Le fou a changé 17 fois. Les yeux croisés sur son perchoir, une vérité au bout des doigts. une lampe entre les mâchoires.
Le fou a chanté 17 fois,
puis il est mort de désespoir dans un champ de labial carnivore.
Tous les tombeaux se sont ouverts pour voir passer le mort vainqueur. L'alcool s'est figé sur ton verre, ta cigarette tombe sur ton cœur.
Et tu cherches une vérité par-delà l'espace. Oui, tu cherches une vérité par-delà l'espace.
Un autre fou sort de son trou,
les yeux recouverts de poussière de 3 siècles passés chez Lucifer.
Un autre fou sort de son trou et vient respirer la lumière qui gerce les murs d'Anguichet comme un grand coup de cimetière. Les feuilles tombent des coca et se répandent sur l'Occident. Demain, tu verras tous ces petits alchimistes pulvériser un continent. Et ta tête tombe de son socle. Et ta tête tombe de son socle de rêve. Et ta tête tombe de son socle de rêve. Et ta tête tombe de son socle de rêve.